Bonsoir, comment allez-vous ? Cette semaine, un jeune joueur de football a refusé de participer à la Coupe du Monde sous prétexte qu'il n'était que suppléant. Oh là, comme on a eu vite fait de le juger orgueilleux. En fait, peut-être a-t-il eu, consciemment ou pas, peur. Le meilleur moyen de ne pas perdre, c'est de ne pas participer. Et ce ne serait pas la première fois qu'on fait capoter un événement pour lequel on s'est donné beaucoup de mal. Combien se sont trompés de date ou ne se sont pas réveillés le jour du bac ? Peut-être a-t-il oublié que le foot était un sport d'équipe. Dans ce cas, pourquoi l'a-t-il oublié ? Pour que la notion d'équipe s'imprime dans sa mémoire, il faut qu'il ait vu une équipe. Est-ce le cas ? On l'a dit immature. Ce qui voudrait dire que les enfants ne sont pas capables d'encaisser une déception ? Je crois que beaucoup d'enfants sont capables d'encaisser d'énormes déceptions et souvent sans rien montrer de leur désarroi. C'est d'ailleurs bien là le drame. Et enfin, et là c'est assez subtil, peut-être a-t-il eu raison de s'écouter et de ne pas faire ce qu'il ne sentait pas. Les sages nous conseillent tantôt de savoir accepter les choses, même quand elles nous déplaisent, car c'est le meilleur moyen de les dépasser, mais aussi de renoncer au renoncement et de croire à l'impossible, car c'est le meilleur moyen de l'atteindre. Marc Aurèle disait que le difficile, c'était de discerner entre les deux. Et vous, que pensez-vous ? Vaut-il mieux jouer au foot dans l'équipe de son quartier et jouer ? Ou jouer dans l'équipe de France et ne pas jouer ?
Bonjour, je m'appelle Simon et je voudrais savoir pourquoi dans les jeux et dans le sport, il y a des gagnants et des perdants. Voilà.
Bonsoir Simon. Quelle question, Georges Vigarello ? Pourquoi dans le sport il y a des gagnants et des perdants ? Vous n'avez que 4 minutes.
Eh bien oui Simon, dans le sport il y a des gagnants et des perdants. Alors parfois il y a plusieurs gagnants, nous ne nous y trompons pas, il y a des gens qui arrivent ex aequo, ce qui est assez remarquable. Mais pourquoi y a-t-il des gagnants et des perdants ? Alors c'est une question importante parce que dans certaines cultures, les ethnologues l'ont très bien montré, on ne supporte pas qu'il y ait des gagnants. Donc il faut finalement trouver un moyen pour que le résultat soit quasiment du type de l'ex aequo, parce qu'on a le sentiment que si on crée finalement un vainqueur, on trouble en quelque sorte le monde, on déséquilibre le monde, et il faut maintenir un équilibre. Et je trouve que de ce point de vue, cette tentative est extrêmement intéressante. Mais dans nos cultures, c'est un peu différent, parce que dans nos cultures, je crois, à tort ou à raison, on a besoin de comparaison, on a besoin de se comparer. Dès que la société s'organise, il faut effectivement qu'on arrive à désigner ceux qui sont plus compétents que d'autres, ceux qui sont plus méritants que d'autres. Et c'est vrai que le sport a tendance à symboliser, là encore, à tort ou à raison, mais il a tendance à symboliser le fait que nous attendons de désigner des compétences et des mérites. Et c'est en cela que le sport, effectivement, crée une situation où on a des gagnants et des perdants. Avec cette idée, quand même, qu'il ne faut pas négliger, c'est que le perdant d'aujourd'hui peut être le vainqueur de demain. Ah. Donc il y a un travail à faire. Le sport crée quelque chose qui est de l'ordre de l'attente. Et avec de l'entraînement, avec de la formation, avec de la tentative de créer de la compétence. Donc les choses ne sont pas établies. Ça, c'est très intéressant dans le phénomène sportif. Le possible demeure. Et même ceux qui ne réussissent pas dans un sport peuvent finalement peut-être réussir dans un autre. Donc, tout n'est pas figé.
Et le miracle existe, c'est-à-dire qu'on a vu des matchs se transformer à la dernière minute. On a vu des athlètes plutôt petits être des grands champions dans des sports où il n'y a que des grands, enfin, et ainsi de suite.
Oui, c'est en ça que le sport est passionnant, parce qu'il y a le renversement, finalement. Il y a l'inattendu, il y a la surprise. Et c'est ça, je pense aussi, qui fait que le sport crée de l'adhésion. Dans le spectacle, il crée de la fascination. Et du coup, il y a un perdant et un gagnant, ce qui nous pourrait paraître de l'ordre de la désespérance au premier abord, mais en fait, ça peut au contraire, à l'inverse, être de l'ordre de l'espoir.
Georges Vigarello, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste du corps. Son dernier livre est édité au Seuil et il s'appelle « La robe, une histoire culturelle ». Ce soir, vous avez demandé au petit bateau pourquoi il ne faut pas manger des huîtres les mois sans air. Depuis quand les mariés se donnent des alliances et l'alliance doit-elle obligatoirement être en or ? Et comment on peut évaluer la valeur d'un tableau qu'on a chez soi ? Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Elias et j'ai 13 ans. Je sais que les pesticides sont nocifs pour les abeilles, mais j'aimerais savoir ce que ça leur fait exactement. Merci.
Bonsoir Elias. Alors nous avons proposé ta question à un chercheur au CNRS à l'Université de Toulouse, plutôt une chercheuse, Aurore Averges-Weber.
Bonsoir, bonsoir Elias. Alors oui, effectivement, tu as tout à fait raison, les pesticides sont nocifs pour les abeilles. Tout simplement parce que les pesticides servent à tuer les insectes. Donc les insectes nuisibles normalement, donc les insectes qui vont manger les récoltes. Mais bien sûr, ces molécules-là, qui sont donc nocives pour les insectes, sont nocives pour tous les insectes. Et donc les abeilles aussi en particulier. La plupart des pesticides qu'on utilise actuellement, c'est des pesticides qui s'attaquent au cerveau des insectes. Et qui donc tuent les pucerons ou autres ravageurs des récoltes. Dans le cas des abeilles, les abeilles en absorbent très peu, bien sûr, par rapport aux pucerons qui sont sur les récoltes. Donc ça ne les tue pas directement la plupart du temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces produits sont sur le marché. Parce que les fabricants ont obligation de vérifier auparavant que les doses que les abeilles vont ingérer ne les tuent pas. Le problème, c'est que les abeilles sont des insectes qui apprennent énormément. Les abeilles donc se déplacent dans l'environnement, vont aller parfois très loin de la ruche et doivent apprendre à reconnaître leur environnement pour retourner à la ruche. De même, elles apprennent à reconnaître quelles sont les fleurs les plus intéressantes pour obtenir du nectar et du pollen. Et tout ça, bien sûr, nécessite d'utiliser fortement le cerveau. Ce sont des insectes qui sont intelligents, qui apprennent, qui mémorisent, à l'inverse des pucerons. Et donc ces abeilles, même si elles ne sont pas tuées par les pesticides qui attaquent leur cerveau, elles ont beaucoup plus de mal à apprendre. Et donc par conséquent, elles se perdent ou sont moins efficaces. Et donc c'est pour ça que c'est nocif pour les abeilles, parce que du coup elles récoltent moins à la ruche, il y a plus d'abeilles qui se perdent, et donc au fur et à mesure des années, les ruches dépérissent.
Le centre de recherche sur la cognition animale, sur lequel travaille Aurore Avargues-Weber, est sur le site des petits bateaux par franceinter.fr. C'est également sur ce site que vous pouvez réécouter cette question.
Tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Dans tes classeurs de lycée, y a du sang, y a des pleurs, les premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme.
Vous avez reconnu Diabolomante, la chanson de Yves Simon. Avez-vous reconnu la chanteuse Soko?
Les petits bateaux sur France Inter.
On a toujours espoir de posséder quelque chose de très précieux.
Bonjour, moi je m'appelle Samuel, j'ai 17 ans et j'avais une question concernant les tableaux qu'on a chez soi. Donc en fait, moi j'aimerais savoir Comment on peut évaluer en fait la valeur d'un tableau qu'on a à la maison? Comment est-ce qu'on peut savoir si il aurait plus de valeur qu'un autre tableau ou qu'une autre œuvre d'art ou quelque chose comme ça? Donc voilà, merci beaucoup.
Merci Samuel pour cette question. Annette Doué, vous êtes restauratrice de tableaux, vous êtes aussi experte en authenticité des matériaux de la peinture et vous êtes enseignante. La valeur d'un tableau qu'on a chez soi, voici l'interrogation de Samuel.
Bonjour Samuel. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se demandent quelle est la valeur du tableau qu'ils ont chez eux. Alors, ils peuvent s'adresser à des experts marchands. Il y a également des maisons de vente, hein, comme les commissaires-priseurs, qui ont au sein de leur maison des experts. Et puis, moi, par exemple, hein, qui suis expert en authenticité, je peux aussi donner une valeur. Mais pour donner une valeur, en fait, il y a différents facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. La première chose, c'est est-ce que le tableau en question est signé ? S'il y a une signature, on va aller directement faire une recherche sur le peintre en question. Est-ce que ce peintre est coté, c'est-à-dire est-ce qu'il a produit des œuvres qui ont déjà été vendues ? Donc, c'est pas forcément des œuvres de musée, mais ça peut être aussi des œuvres qui vont aller sur des ventes courantes. Donc, il y a des sites qui sont des sites pour la plupart professionnels, donc qui fonctionnent avec des abonnements, et qui vont, quand on tape le nom du peintre, donner les dernières ventes avec le détail des œuvres qui ont été vendues. Donc on a la localisation de la maison, ça peut être en France, ça peut être à l'étranger, on a la date, on a la photo du tableau en question, on a les dimensions et on a le descriptif. On a le prix d'estimation qui a été donc estimé par l'expert, et puis le prix de vente.
C'est quand même pas mal d'informations.
C'est beaucoup d'informations. Donc, dans le cadre où le tableau est signé et dans le cadre où la signature est authentique, parce que parfois il y a des signatures qui sont fausses, donc dans le meilleur des cas, c'est assez facile. On peut faire ça, nous, en quelques minutes. Là où ça pose problème, c'est pour les œuvres qui ne sont pas signées. Alors, elles peuvent être signées et encadrées avec ce qu'on appelle un petit cartel en dessous avec le nom du peintre. Donc là, il faut faire le rapprochement. Est-ce que le nom du peintre qui est marqué correspond bien au tableau ? Donc il faut faire une petite recherche en histoire de l'art. Donc là encore, il y a des historiens de l'art, il y a aussi des sites qui sont spécialisés, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et puis, il y a des tableaux, on va dire anonymes, qui sont faits soit par des peintres professionnels, soit par des amateurs, et là, c'est le grand vide. Parce que il faut essayer de retrouver l'artiste. Et là, des artistes sur les derniers siècles, ça en fait des dizaines de milliers. Et là, c'est un vrai travail d'expert.
Alors, peut-il y avoir, Annette Doué, un tableau qui n'est pas signé, qui n'a pas été peint par un peintre reconnu, mais qui est une merveille?
Bien sûr. Mais ce qui est une merveille pour l'un sera une œuvre sans intérêt pour un autre. Là, on fait appel simplement à la valeur esthétique ou la valeur sentimentale. Et dans la valeur esthétique, par exemple, vous avez différentes valeurs marchandes. Un bouquet de fleurs va se vendre mieux qu'un nature morte avec des noix. Ouais. Un portrait de femme jolie se vendra mieux, enfin aura une plus grande valeur qu'un portrait de vieille dame ou qu'un portrait d'homme. Vraiment. Donc, il y a aussi le côté esthétique. Il y a aussi la dimension qui peut jouer. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de place pour les grands tableaux de grande dimension. Donc, l'essentiel du marché, c'est plutôt sur des petits ou moyens formats.
Il y a beaucoup de choses qui jouent qui n'ont pas forcément un rapport avec l'art.
Absolument.
On parle d'argent.
On est sur un marché. C'est le marché de l'art et tout est possible.
On se demande toujours si l'argent et l'art font bon ménage. Moi, j'avais des amis qui avaient un portrait, un tableau. C'était le portrait d'un homme qui tenait de leurs grands-parents. Ils aimaient beaucoup ce tableau. C'est vrai qu'il était joli. Et ils se le gardaient de déménagement en déménagement. Mais juste parce qu'ils le trouvaient joli. Il valait rien, ce portrait. Ils savaient même pas de qui il était. Puis un jour, un Américain est venu dîner chez eux. Il a regardé le tableau et il leur a dit « Oh, vous avez un John Polo !» Ils l'ont fait expertiser, ils l'ont fait copier, ils l'ont vendu, ils ont gardé la copie, se sont acheté une très belle maison à Belle-Île-en-Mer avec le tableau.
Bonjour, c'est Laura. Depuis quand est-ce que les mariés se donnent les alliances? Est-ce qu'elles doivent toujours être en or? Merci.
Bonsoir Laura. Marie-Odile Merniac vient d'écrire Le mariage et ses rites d'hier à aujourd'hui chez Archives et Culture.
Bonsoir Laura. Les alliances se donnaient déjà à l'époque romaine, on se s'offrait des petits anneaux en fer à cette époque-là, quand on était amoureux. Ensuite, la tradition des petits cadeaux entre amoureux s'est maintenue, mais c'était plutôt des boucles d'oreilles ou des colliers qu'on s'offrait. Ou des petites blagues à tabac pour les messieurs avant la Révolution ou au 19e. En 1533, il y a un rituel consacré au mariage, écrit par l'Église catholique, qui disait qu'il fallait s'offrir au moment de la cérémonie un anneau. Cette tradition des alliances qu'on échange lors du mariage ne s'est vraiment généralisée qu'au 19e siècle. Donc très tardivement, on peut choisir ce que l'on veut comme matière, du métal, de l'argent, de l'or. Alors évidemment, l'or, comme c'est un métal qui dure éternellement, on le privilégie, mais autrefois, c'était cher, on n'avait pas toujours les moyens de se l'offrir. Il reste quand même un proverbe qu'on utilisait dans les campagnes autrefois qui disait « L'alliance est un fil d'or qui ne se rompt qu'à la mort ».
À chaque fois qu'on parle d'alliance et de mariage, je pense au petit coup de speed que nous offre le témoin avec les alliances qu'il a perdues, qui n'arrivent pas, dans le fameux film « 4 mariages et un enterrement ». Jean-Baptiste Audibert d'avoir programmé cette chanson. Merci aussi Eliane Girard qui était d'accord avec moi pour une fois. C'était Adèle, Send My Love.
Bonjour France Inter, je m'appelle Laurine, j'ai 13 ans. Je voudrais savoir pourquoi il ne faut pas manger des huîtres les mois sans R. Je vous remercie.
Laurine, il y a un R dans ton prénom. C'est pas pour ça que nous allons te manger, mais te répondre. Jean Proulx, il y a également un R dans votre nom. Chercheur à l'IFREMER, encore des R, directeur du centre de recherche, même de Tremblay, en Charente-Maritime. Alors c'est drôle parce que Laurine est jeune, moi je ne le suis pas et on disait déjà ça, je pensais que c'était passé cette phrase, on mange les huîtres dans les mois en R, Jean Proulx.
Ouais, la phrase est passée parce que c'est plus justifié maintenant, on peut manger des huîtres dans tous les mois de l'année.
Hein. Alors,
effectivement... Il y a, on va dire une centaine d'années, hein, la France n'était pas aussi assainie.
Oh bah je prends un coup de vieux là tout d'un coup.
il y a une centaine d'années, il n'y avait pas d'assainissement en France, hein, et donc les coquillages avaient une période un peu fragile. C'était les mois d'été où les eaux étaient chaudes et donc il y avait des bactéries dans l'eau et donc si vous mangiez des coquillages, vous pouviez vous rendre malade.
Ah,
d'ailleurs, il y a
ça.
Eu des accidents à Paris dans les années 1915-1920 dans les grandes brasseries parisiennes. Où il y a eu des malades à cause des coquillages. Et c'est peut-être à partir de là qu'a commencé l'assainissement des villes en France.
Donc c'est pour répondre à Laurine, hein, qui demandait pourquoi il ne faut pas manger des huîtres les mois sans R, c'était pour ça, parce que ce sont des mois où il faisait trop chaud.
C'est des mois où il faisait très très chaud et où les coquillages étaient dangereux à manger. En hiver, les bactéries elles sont peu actives, donc on pouvait manger les huîtres les mois d'hiver. Et il y a une deuxième raison, c'est que les mois de mai, juin, juillet, août, donc les mois sans R, sont les mois où la reproduction des coquillages se fait. Les coquillages sont un peu plus fragiles quand ils sont en reproduction. Donc quand vous les transportiez du bord de la mer jusqu'à Paris, eh bien, les coquillages, un, il faisait plus chaud, et deux, les coquillages étaient fragiles. Donc, les coquillages qui étaient envoyés sur Paris, à partir de la côte, n'étaient pas toujours de très très bonne qualité. Mais maintenant, vous avez tout un tas de normes sanitaires qui sont employées, vous avez des camions frigorifiques, vous avez des huîtres aussi qui se reproduisent beaucoup moins parce qu'on a amélioré l'espèce. Et donc, vous pouvez manger des huîtres dans tous les mois. Il faut en manger d'ailleurs parce que les commerçants, les poissonniers, les ostréiculteurs font tout pour que le coquillage soit un animal qu'on puisse manger toute l'année et sans problème.
Alors, en dehors des problèmes, il y a aussi des histoires de gourmandise. Qu'est-ce que c'est le blanc qu'on trouve dans l'huître, Jean Prou, qu'on trouve moins d'ailleurs maintenant, effectivement?
Il y a deux choses dans l'huître qu'on peut appeler blanc. Oui. Il y a la laitance, c'est-à-dire que ce sont les produits génitaux entre avril et puis août. Ça, ce sont les produits génitaux qui sont émis par l'huître au moment de se reproduire au mois de juillet-août. Donc quand vous mangez ces produits-là, effectivement, ça a un petit goût un petit peu acre, mais vous pouvez les manger quand même, c'est pas interdit, au contraire. Et effectivement, il y en a un peu moins maintenant parce que on fait ce qu'on appelle une huître des quatre saisons, c'est-à-dire une huître qui ne fait pas beaucoup de produits génitaux, dont les bébés sont faits dans des écloseries, dans des petites maternités. On fait des croisements artificiels, quoi, entre un mâle et une femelle, pas artificiel, un croisement artificiel, mais dans une petite écloserie. Et ces animaux-là ont la particularité de pas faire trop de produits génitaux. Donc ça, effectivement, ça permet aux gens de manger des huîtres dans les mois d'été, dans les cités balnéaires. La deuxième raison, c'est le blanc, c'est quand le coquillage fait du gras. C'est-à-dire quand il devient obèse. L'huître, quand ils font leur reproduction, ils perdent à peu près, c'est-à-dire au mois d'août, ils perdent 60% de leur poids. Donc au mois de septembre, vous avez des coquillages où il n'y a pratiquement pas grand-chose dedans. Les huîtres, elles sont un peu vides. C'est pas à ce moment-là qu'il faut vraiment en manger beaucoup. Mais par contre, après, pour passer l'hiver, elles vont accumuler des réserves de la nourriture, elles vont manger énormément, elles vont faire du gras. Et là, l'huître va être bien blanche. Et quand vous la mangez à Noël ou au premier de l'an, vous avez le maximum, on va dire, de l'obésité d'un coquillage. C'est là où il est le plus charnu, le plus beau. Et on appelle ça des huîtres grasses, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où elles sont bonnes à manger. Donc le gras s'oppose un peu à la laitance, c'est deux choses différentes. La laitance au mois d'avril, mai, juin, c'est légèrement plus jaune que le gras que vous allez trouver au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de novembre aussi. En fin de compte, on dit du gras, mais huîtres grasses, mais c'est pas du gras, c'est du glycogène, donc c'est un sucre, en fin de compte. Quand vous mangez des huîtres à Noël, c'est une sorte de sucre que vous mangez. C'est pour ça qu'on dit souvent que les huîtres ont goût de noisette à cette période-là, parce que c'est légèrement sucré, légèrement charnu et croquant.
Quel bonheur de manger des huîtres, ça vaut un week-end au bord de la mer. Nous étions en train, avec Vincent Godard et Eliane Gérard, de réfléchir à tous ces plats que les uns adorent et que les autres détestent. Les uns se régalent d'huîtres et d'autres, ça les dégoûte. C'est pareil pour les oreilles de cochon, les crêtes de coq, les têtes de veau, les cervelles. Et c'est si bon quand c'est bon! Déjà cité Vincent Godard, Eliane Girard, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham et Marjorie Devoucoux, nous étions là aussi et nous vous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30. Cette émission est à réécouter à la page des Petits Bateaux sur le site de France Inter. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois rien. Il ne me reste plus qu'à vous laisser entre les mains de Denis Chessou.